Kiosque Magazine.
Et bonjour à tous, nous sommes le 31 juillet, ravis d'être avec vous ce matin. Vous écoutez Kiosque Magazine pour l'édition Culture et Loisirs. Alors ce matin, pour le programme, dans la première partie de l'émission, je vous parlerai d'Arthur H. Il ne s'agit pas là de son dernier album, mais d'un recueil de poèmes que ce dernier a écrit et souhaite amener sur les planches. On parlera aussi d'humour avec la pièce « Avaler la pilule » de l'humoriste Simon Delisle. Amour, mensonge et trahison sont les thèmes de la pièce « Sacrée famille » qui se joue au théâtre Saint-Sauveur. Et en seconde partie d'émission, on parlera du dernier film de Woody Allen qui arrive dans vos salles dès le 7 août. En cas de puits, aucun remboursement, c'est le nom de la pièce de Simon Baudreau qui est à l'affiche jusqu'au 21 août. Et enfin pour terminer, la programmation à ne pas manquer avec le Festiblues International de Montréal. Arthur H. a de multiples talents. Chanteur, musicien, peintre et illustrateur, il vient de lancer un premier recueil de poèmes qu'il a l'intention d'amener sur les planches dans un concept audacieux et en 3D. Yves Leclerc nous en parle dans le Journal de Montréal du samedi 25 juillet. Lancé en mai chez Actes Sud, Le Cauchemar Merveilleux est un recueil de petits contes vifs et imagés. Une poésie punk, mystique, sexuelle, chimétrique, provocante et douce, couchée dans la réalité folle d'un monde cacophonique. Des textes qui abordent le 11 septembre, le sexe, la science, la foi, les icônes de la culture populaire et autres thématiques propres à l'univers d'Arthur H. Moi, ce que j'aime, c'est de raconter des histoires. J'ai envie d'emmener les gens dans des histoires d'énergie, d'amour, de rêve, de folie et drôle. Et tous les moyens sont bons pour le voyage, a-t-il indiqué. L'auteur, compositeur et interprète explique qu'il y a une différence entre écrire un recueil de poèmes et mettre sur papier les textes de ses chansons. La chanson, c'est beaucoup plus technique parce que les mots dans l'écriture sont esclaves de la mélodie. Je ressens plus les choses, plus en termes de son que de sens, même si c'est évidemment tout mélangé. Je ne réfléchis pas en tant que musicien. En poésie, je n'ai pas de contraintes, je suis totalement libre, a-t-il précisé. Arthur H. travaille avec les gens de la Société des arts technologiques à Montréal afin d'amener Le Cauchemar Merveilleux sur scène. Nous voulons en faire une création sonore avec énormément de sons et pour voyager complètement dans l'espace. Je travaille avec une artiste sonore pour faire de la musique en 3D et où les gens seront entourés de mots et de sons, a-t-il décrit. Occupé par ce projet et par une série de concerts d'été chez lui en France, Arthur H. n'a pas de nouvel album en chantier. Le pianiste et chanteur lancera d'ici la fin de l'année un coffret soulignant ses 25 ans de carrière qui réunira 3 heures de musique. Ce sont des chansons inédites que j'ai amassées au cours des années, de belles chansons que personne ne connaît, qui ont été oubliées et laissées sur le bord du chemin. Ça va être comme si je sortais 3 nouveaux disques, a-t-il fait remarquer en riant. Thank you.
Alors, bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis là ce matin en compagnie de Jennifer. Il y a des petits ralentissements de service parfois dans le métro.
Ça arrive.
Mais reste que l'art autochtone est très présent, en particulier à Montréal. Le titre de l'article « Statue made in Montreal » s'est apparu dans le journal de Montréal de ce mercredi dernier, un article de Camille Gaillard. Une partie de l'art inuit qu'on retrouve dans le Vieux-Montréal est produit par de jeunes autochtones à quelques pas du quartier des spectacles, bien loin du Grand Nord et des chiens de traîneau. Une quinzaine de jeunes Montréalais d'origine inuit dans la trentaine, en quête d'intégration, tentent de survivre grâce à l'œuvre de leurs ancêtres, la sculpture sur pierre à savon. À partir de demain, donc demain du texte, c'est-à-dire jeudi, alors que certains travailleront devant le public au festival Présence autochtone, d'autres participeront à Taku, un mot inuit, T-A-K-U, qui signifie « voir », une exposition d'œuvres de sculpteurs inuits. C'est le cas de Simiuni Nayua, un père de famille de 30 ans, né à Akulivik, à 1800 km au nord de Montréal, qui exposera 5 de ses œuvres, un hibou, 2 phoques, un chien et un ninukchuk. Vente dans la rue. J'ai commencé à faire de la sculpture en 2012 et aujourd'hui j'arrive à vivre de mon art, explique le résident du plateau Mont-Royal qui est arrivé il y a 20 ans. Dans son atelier situé au sous-sol du Centre d'amitié autochtone de Montréal, au coin du boulevard Saint-Laurent et de l'aire Ontario, Simiuni et une demi-douzaine d'artistes travaillent à tour de rôle. Ils vendent dans des galeries d'art au Vieux-Montréal ou simplement dans les rues, confirme Sylvie Cornez, consultante pour la société Makivik qui défend les droits des Inuits. Ce sont des jeunes qui ont de la misère à s'établir, à se trouver un emploi et pour qui l'intégration est vraiment difficile. Bien que Simiuni ait passé les 2/3 de sa vie dans la métropole, il continue de faire face à d'importants défis. Chercher un appartement ou trouver du travail reste difficile pour lui. Il ne fréquente pas non plus les restaurants ou les cafés. Il dit « J'ai l'impression que tout le monde me regarde comme si j'étais une mauvaise personne. » Après un secondaire inachevé et plusieurs années sur l'aide sociale, l'art s'est avéré être son unique porte de sortie. Dans le Nord, les filles apprennent la couture et les garçons à faire de la sculpture, donc j'ai toujours su faire ça. À Montréal, 0,6% de la population est autochtone et il représente 10% de la population itinérante, rappelle Émile Roux, directeur général de la Société de développement social de Ville-Marie. Alors, de faire de la sculpture, par exemple, c'est une façon de créer un lien, de briser la glace et tous les revenus de la vente d'objets leur reviendront. Le festival se tient du 30 juin au 5 août prochain. Et puis, les ateliers de démonstration auront lieu à la place des festivals, notamment ce samedi de 14h à 20h, oui, et dimanche de 3h à 20h. Et rapidement, sur la page de l'article dans Journal de Montréal, on voit une photo de Simiuni en train de sculpter.
Je te répète, oui, de mon Dieu. Tu sais, de mal, moi, pète, je te sais. Mon attend, moi, je te répète, oui, de mon Dieu. Tu sais, de mal, moi, pète, je te sais. Où t'es, quand, baby, quand, moi, je te prends. Oh, pour c'est de mal, tu me noies, we'll be right back.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est une musique traditionnelle autochtone, mystère sur ce que ça veut dire, mais on peut très bien imaginer, en fait, facilement imaginer une chanson d'amour. Et maintenant, après l'amour et les sculptures, place à l'humour, Jennifer. Tu nous parles de qui, là?
Eh oui, je vais vous parler de Simon Delisle, effectivement, parce que rire des travers de la vie pour mieux accepter son sort, bah, c'est un peu la philosophie de cet humoriste-là. Il a été victime de problèmes de santé quand il était un petit peu plus jeune, et du coup, il décide d'en rire plutôt que d'en pleurer. C'est plutôt une belle philosophie. Ouais. Et c'est Marie-Hélène Chartrand qui nous en parle dans le 24 heures du mardi 28 juillet. Vous l'aurez deviné, une bonne partie de son deuxième spectacle solo, Avaler la pilule, est consacrée à sa condition particulière. Atteint de polyandrocrinopathie de type 1, donc c'est un dysfonctionnement des glandes incurables qui le prive de ses cheveux et l'empêche de sécréter de l'adrénaline, et de diabète de type 1, Simon Delisle use d'autodérision pour dédramatiser la situation. Aussi, dès les premières minutes du spectacle, ce dernier aborde le sujet de son apparence physique et comment il a perdu ses cheveux, ses cils et ses sourcils. « Moi, bien huilié, je rentre dans un pot de Pringles », s'exclame-t-il. Les sujets abordés par Simon Delisle sont originaux. Celui-ci ne passe toutefois pas les 60 minutes de son one-man show à parler de son état de santé. Le sujet des médicaments pris quotidiennement par l'humoriste débouche sur ses expériences avec la marijuana, par exemple. Par la suite, il livre un numéro efficace sur la publicité. Des infos publicités regardées tard le soir jusqu'aux publicités régionales en passant par les slogans de grandes entreprises, rien n'est écarté. Celui-ci termine le spectacle avec son désir d'avoir un enfant et les chicanes de couple, une tirade dans laquelle plusieurs spectateurs se sont sûrement reconnus. L'analogie entre une chicane de couple et une guerre de tranchées se révèle particulièrement drôle. Enfin, avec ce deuxième spectacle solo, Simon Delisle prouve que le rire est un remède efficace pour affronter les épreuves de la vie. L'humoriste est un battant dans tous les sens du terme, non seulement face à la maladie, mais également face à ses ambitions.
Et c'est parti pour un été faste pour les musées. C'est un autre article paru dans le Journal de Montréal le mercredi dernier. Les établissements signalent une hausse de clientèle. En fait, depuis le début de l'été, il y a plusieurs grands musées qui ont remarqué une hausse de leur achalandage. Il faut dire que tous les facteurs sont réunis pour une année record. Notamment, on parle de la qualité des expositions, la température en dents de scie et la baisse de l'or canadien, ce qui a attiré les touristes. Un article de Sandra Godin. Au Musée de la civilisation, qui présente l'exposition « Égypte magique », on rapporte que plusieurs journées pluvieuses de juillet ont permis de franchir les 5000 visiteurs par jour, ce qui a provoqué une ligne monstre à la billetterie. Même son de cloche au musée Pointe-à-Calière, situé dans le Vieux-Montréal, dont l'exposition sur les Aztèques attire les foules. Quand je regarde les mois de juin et juillet, effectivement, on est en hausse par rapport à l'année dernière, note la directrice des communications, Claude-Sylvie Lemery. Jusqu'à ce jour, cette année, on note une hausse de 30 %. Elle avoue aussi avoir remarqué beaucoup plus de touristes dans le Vieux-Montréal. Du côté du Musée des Beaux-Arts, la directrice des communications, Pascale Chassé, confirme que l'exposition Métamorphose, dans le secret de l'atelier de Rodin, franchira la barre des 80 000 visiteurs cette semaine. au Musée national des beaux-arts de Québec, qui présente l'exposition « Inspiration Japon, des impressionnistes au moderne », on note une augmentation de 25 % de la fréquentation comparativement à la même période l'an dernier. Il y a la chaleur aussi, parce que chaque jour, les musées comptabilisent le nombre d'entrées et notent le type de journée sur le plan de la température. La chaleur humide peut aussi amener des gens, précise Serge Poulain du Musée de la Civilisation. Il rapporte que les journées très chaudes du 9 et 14 juillet dernier, bien, il y a plus de 3000 personnes qui sont entrées au musée, ce qui est un nombre considérable. Donc, tous les intervenants s'entendent pour dire que la baisse du dollar canadien est aussi pour quelque chose. Elle attire non seulement les touristes, mais incite plusieurs Québécois à passer leurs vacances ici. Alors voilà, donc on peut continuer à visiter des musées encore cet été. Et je rappelle qu'à Montréal, chaque premier du mois, si je ne m'abuse, chaque premier dimanche du mois, c'est gratuit. Alors, on en profite.
Et on part tout de suite en théâtre dans une ambiance décontractée que les comédiens Daniel Proux et Roger Larue se sont donné la réplique interprétant un couple défait par les mensonges et la trahison. La comédie de situation Sacrée Famille, mise en scène par Alain Zouvi, présentement à l'affiche au théâtre de Saint-Sauveur, a réussi à amuser son public malgré des thèmes qui auraient eu raison de choquer plusieurs spectateurs. Louise Bourdonnais nous en parle dans le journal de Montréal du vendredi 17 juillet. Au théâtre, tout est permis. Même les personnages bourrés de préjugés y ont leur place. La pièce de l'auteur Carl Ritchie, écrite en 1996, met l'accent sur ce thème. D'emblée, on retrouvera sur scène Richard, joué par Roger Larue, un homme terriblement conservateur, homophobe et raciste. Son jeu est suffisamment crédible, permettant de croire que ce genre d'homme puisse exister. Heureusement, il est le seul de cette sacrée famille à être habité par une étroitesse d'esprit. Marié à Chantal, joué par Daniel Proux, le couple est sur le point de divorcer, les procédures légales étant déjà entamées. C'est Chantal qui a décidé de quitter son mari aux idées préconçues. De surcroît, il a sauté la clôture avec une femme plus jeune qu'elle. Daniel Proux, qui interprète une femme au grand cœur, excelle dans ce rôle, ajoutant une certaine douceur au milieu du chaos qui prendra beaucoup de place. C'est que le couple a deux enfants, désormais adultes mais plutôt dépendants de leurs parents. Leur fille Mylène, jouée par Patricia Larivière, est amoureuse d'un homme anglophone de religion juive. Leur fils Mathieu, joué par Vincent Fafard, quant à lui, est homosexuel et étale sa vie amoureuse au grand jour. Pour le père aux idées préconçues, rien ne va chez ses enfants. Il se voit confronté à l'inacceptable. On comprendra que tous ces préjugés ne sont qu'en fait le premier niveau de cette pièce, car derrière toutes ces discussions sans fin et le déni dont Richard fera preuve, se dissimule une belle histoire d'amour entre un homme plutôt maladroit et une femme qui aime sans doute trop. En deuxième moitié de spectacle, c'est le romantisme qui dominera. Au final, l'amour prendra le dessus. D'ailleurs, les spectateurs se sont laissés emporter par le romantisme de la pièce qui se termine sur une belle note. Donc je rappelle, la pièce de théâtre, c'est Sacrée Famille, c'est à l'affiche jusqu'au 29 août au Théâtre Saint-Sauveur.
Rentrée des classes et cours de maths, le prof a l'air d'un psychopathe. Carton jaune et manque d'humour, c'est l'interro de le premier jour. Salut les années collège, 6 fois 5 et je retiens en. Dans une classe de 30 élèves, y a plus que 29 gamins. Mais où est donc Cornicard? On l'a pas trop calculé. Déjà 3 tonnes de devoirs, et c'est pas du bon français. Un pour tous et tous pourris, c'est par ici la sortie. Mais où est donc Cornicard, Vladimir et Ismaël? Pour Kamel et Boubacar, quelle horreur est-il? Vite en français, dissertation, et c'est maintenant que ça se complique. Liberté, j'écris ton nom, mais sans papier, c'est pas pratique. D'ailleurs, l'histoire, c'est tout comme on a la guerre d'Algérie. sauf qu'au pays des droits de l'homme, c'était chouette les colonies. Alors en sciences naturelles, on pige que c'est pas gagné. Y a le mâle, y a la femelle, et puis y a le sans-papier qui est aussi un mammifère, même si on sait pas quoi en faire. Mais où est donc Kornikar, Vladimir et Ismaïl, pour Kamel et Boubacar? Quelle horreur! Dans un liquide, finit toujours par se noyer. Ça évitera de l'expulser. Liberté, quand tu nous tiens, H2O, ça fait rêver. Mais le destin du clandestin, c'est de fermer sa gueule à clé, ou bien d'aller faire trempette. Vu que dans ce genre de croisière, passer par profits et pertes, c'est moins dur que la frontière. Mais le manque de savoir vivre, ça limite les récidives. Mais où est donc Kornikar, Vladimir et Ismaïl, pour Kamel et Boubacar? Quelle horreur est-il? Mais à part ça, la vie est belle. Et puis faut dire que dans les ghettos, y'a plein de places à la poubelle. Et ça s'appelle lycée des clos. Mais toi, t'es déjà nulle part. Et du fond de l'aéroport, tu peux même pas dire au revoir, bouffé par l'escalator. Y'a plus que 29 élèves dans une classe de 30 gamins. Salut les années collège, et puis salut les copains. Pour toi, Mehdi, l'école est finie.
Et c'était Agnès Bill avec Mais où est donc Kornikar? Et maintenant, avec Geneviève, on va partir pour le festival Fantasia. Mm-hmm. Et tu vas nous parler de quel film?
En fait, c'est un nouveau film du réalisateur et co-scénariste Patrick Kennelly, qui, en fait, le film s'intitule Excess Flesh, et il emprunte à deux styles de films. Donc, film d'horreur épouvanté par les comédies romantiques et les sitcoms. Donc, un premier long métrage tordu et anxiogène qui traite de la solitude à Los Angeles et de la dictature du paraître. Donc, est-ce que, en fait, Natalia Visoka du journal Métro d'aujourd'hui pose la question, est-ce l'œuvre la plus hallucinée que vous verrez à Fantasia? Donc, à suivre. Œuvre d'art et d'horreur, Excess Flesh met en scène deux colocataires, Jennifer et Jill. C'est toi, Jennifer, eh bien.
Hein? Eh oui, je t'avais caché ça. C'était la petite surprise d'aujourd'hui.
L'une est mannequin et a un côté chippie, se vante de sa génétique et passe ses journées à engouffrer des tonnes de nourriture. Ostensiblement. L'autre reste à la maison, rêvant de ressembler à sa coloc, rêvant aussi de déguster tout ce qu'elle veut, mais s'empêchant de le faire. Se déroulant à Los Angeles, donc, cet étrange objet célébré en mars dernier au festival SXSW englobe de façon curieusement sensible, quoique intensément violente, les très complexes thèmes de la dysmorphophobie, donc des troubles alimentaires, de la vengeance, de l'isolement. Le réalisateur, donc, Patrick Kennelly, on en parlait, est également un artiste visuel. Donc, il joue avec les textures, les couleurs, les contrastes dans son film. Les chevelures rousses des deux amis qui clashent avec le rose de leur baignoire. Et justement, on voit l'image là, dans le journal Métro des deux colocataires. Donc, Jennifer et Jill, les cheveux roux. Une des deux porte seulement un soutien-gorge bourgogne. Elle est assise sur le bord du trottoir. Et l'autre l'enlace. Elle est vêtue d'un t-shirt bleu pâle et d'un petit sous-vêtement, d'un slip. Donc, elles sont assez dénudées, si on peut dire, assez naturelles dans la rue. Il y a deux hommes vêtus d'un pantalon de costume de travail qui discutent devant elles. Donc, le choix des aliments est très important dans votre film. Trouviez-vous que certains d'entre eux, par exemple, les ours en gélatine, donc les fameux gummy bears, ajoutaient une facture artistique? Alors, Patrick répond oui. Tous les aliments que nous avons utilisés avaient une signification particulière. Sa co-scénariste Sigrid Gilmer a d'ailleurs fait une liste des denrées les plus tentantes, les plus dégoûtantes et les plus... Quel est le mot que je cherche? Bref, des denrées qui n'allaient pas du tout ensemble. Mais c'est ce qui caractérise le film en entier, différentes textures et différents styles qui s'entrechoquent. Plus le temps avance, plus l'appartement des deux jeunes femmes est submergé de boîtes de plats livrées à domicile. Envahir les pièces de ces boîtes vous permettait-il d'amplifier le sentiment de confinement? Oh oui, assurément. Je voulais garder le récit dans un espace exigu parce que c'était un reflet très personnel de l'état d'esprit dans lequel j'étais, moi, il y a quelques années. Le film est également inspiré par Los Angeles, dans le sens où, même si elle est grande, cette ville peut être étouffante, suffocante. Es-tu déjà allée à Los Angeles, Jennifer?
Pas encore.
Pas encore. Moi non plus, mais on peut imaginer quand même la chaleur qu'il doit avoir à Los Angeles, donc oui, ça peut très bien être suffocant. On est souvent coincé dans nos apparts, dans nos voitures, et c'est ce que je voulais montrer. Habituellement, quand on voit un film de Los Angeles, on voit tout un univers. Eh bien, moi, je préférerais rester dans un seul endroit. Est-ce une ville que vous aimez malgré tout? Oui, je l'adore. Plusieurs personnes ont dit que mon film était haineux par rapport à Los Angeles, mais ultimement, il pourrait se dérouler n'importe où. Je voulais parler de la culture du paraître en général plus que la ville. Mais comme il se trouve que j'habite ici depuis 13 ans, et ma co-scénariste aussi, eh bien l'énergie des lieux a marqué l'histoire. Vous dépeignez un milieu où les gens cachent leur vraie nature et jouent un rôle. Il y a des rires diaboliques, d'autres qui se transforment en sanglots. Est-ce que vous souhaitez faire de ces éclats une partie primordiale de vos dialogues? Il dit absolument, dans la Excess Flesh, oui, a été classé dans la catégorie film d'horreur, mais au départ, c'était pas du tout ce que je pensais faire. Il avait vu un montage vidéo composé uniquement de plans de situation, des plans dans lesquels il n'y a personne, que des bâtiments, et Patrick trouvait que c'était la chose la plus terrifiante qui était. Avec leurs chevelures rousses, les femmes semblent être par moments deux visages d'une même personne. Donc, peut-être un dédoublement de personnalité entre les deux colocs. À suivre, vraiment, moi, je suis fascinée, Jennifer, vraiment.
Il a l'air vraiment, vraiment excitant.
Demain, à 23h55, au théâtre Concordia Hall, dans le cadre du festival Fantasia Excess Flesh, tout le monde.
Eh bien, on va se laisser le temps d'une courte petite pause et puis on s'en revient pour la deuxième partie de l'émission. À très vite.
À tout à l'heure.
Écoutez Kiosque Magazine.
Et nous voici de retour pour la deuxième partie de l'émission où là on va partir au cinéma avec L'Homme Irrationnel. C'est le nouveau long métrage de Woody Allen. Joaquin Phoenix, Emma Stone et Parker Posey se partagent l'affiche de ce film sur l'absurdité de la vie, thème exploré par le cinéaste. Isabelle Hondberry nous en parle dans le journal du 24 heures d'aujourd'hui. C'est lors du festival de Cannes en mai dernier où L'Homme Irrationnel était présenté hors compétition que le réalisateur, entouré de ses deux actrices, en a levé un petit peu plus sur le voile de cette nouvelle offrande. L'homme irrationnel suit Abluka, joué par Joaquin Phoenix, professeur de philosophie particulièrement désabusé, qui ne voit pas où sa vie peut bien mener. À son arrivée dans l'université d'une petite ville, il tombe immédiatement sur une collègue, Rita Richard, jouée par Parker Posey, dont le mariage est en train de se dissoudre et qui attend d'Ab qu'il lui redonne le goût de la vie. Mais ça ne fonctionne pas et notre héros s'enfonce encore un peu plus dans la dépression. Parallèlement, ce prof se lie d'amitié avec Jill Pollard, jouée par Emma Stone, sa meilleure étudiante. La jeune fille est en couple avec Roy, mais elle ne peut s'empêcher d'être fascinée par Ab. Lors d'une sortie au restaurant, Ab et Jill entendent une conversation à la suite de laquelle le professeur prend une décision qui changera sa vie à jamais. Je crois qu'au cours de la vie, on arrive toujours à un tournant, un moment important où on réalise soudainement que quelque chose d'exceptionnel peut arriver si l'on fait un choix. Si c'est le bon choix, tant mieux. Dans le cas du choix effectué par Joaquin, il n'est pas si irrationnel que cela quand on le compare avec certaines des décisions que nous prenons, a souligné Woody Allen lors de la conférence de presse donnée sur la Croisette. Cette dissection de la recherche du bonheur, une thématique que le plus européen des cinéastes américains a abordée tout au long de sa carrière cinématographique, n'a pas modifié sa vision de l'existence, pas plus qu'à l'âge de 80 ans qu'il va fêter à la fin de l'année. Vous savez, il n'y a pas de réponse positive à la sombre réalité de la vie, dit Woody Allen. En fin de compte, après tout, ce qu'on peut bien dire, c'est que la vie a sa volonté propre et qu'elle vous écrase. Nous allons tous finir en mauvaise posture un jour ou l'autre. La seule manière de s'en sortir, la seule chose que l'on puisse faire en tant qu'artiste, c'est d'inventer quelque chose qui va expliquer aux gens pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Malheureusement, on ne peut pas y parvenir sans leur mentir, a poursuivi le cinéaste réputé. On ne peut pas être honnête avec les gens. La vie n'a pas de sens. On vit dans un univers aléatoire. Tout ce que l'on fait ou crée va disparaître. C'est donc quasi impossible de vendre au public l'idée que tout cela est joyeux. De fait, j'en suis arrivée à la conclusion que la seule manière d'échapper un tout petit peu à cette morosité est à travers la distraction, comme regarder un match de baseball ou un film de Fred Astaire. Doté d'un solide sens de l'humour, le secret c'est de prendre d'excellents acteurs et de ne pas les faire chier. Après, c'est le réalisateur qui obtient tout le crédit, lance Woody Allen, qu'il dirige la comédie, et ça n'a pas été pour lui un choix, car il a toujours voulu être un cinéaste sérieux. Son idole, ça a été Bergman, mais il a fallu que ce soit un réalisateur de comédie parce que c'est là qu'il trouve ses dons, et personne ne voulait lui donner d'argent pour tourner un film sérieux. Les producteurs voulaient absolument que je sois drôle, et c'est quelque chose que je suis capable de faire. J'étais atrocement sérieux quand j'étais petit, j'étais terriblement ennuyant quand j'étais jeune. Si j'avais pu, j'aurais réalisé un film lourd après l'autre durant toute ma vie et je n'aurais jamais touché à la comédie. On est heureuse de savoir qu'il n'a pas fait ça. Donc je rappelle que L'Homme irrationnel va arriver dans les salles du Québec dès le 7 août.
Mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle le garde en secret. Tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents, et tous ces clairs matins, faits de souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour. Petite fleur, petite fleur.
Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour. Petite fleur, ah, quelle belle chanson. Ces petites fleurs de Jean Leloup,
magnifique.
C'est magnifique, un classique incontournable. Mais plus particulièrement, il y a de ces belles choses dans la vie, hein, Jennifer, un soleil, une brise au vent. Et il y a des petites fleurs, et il y en a une qui est arrivée à 10h59 samedi dernier.
C'est
ma
pour
toute
ça que
première nièce à moi, il y a l'émotion dans ma voix.
Tout est
la petite Florane, ma toute première petite nièce à moi, la fille de mon frère, vraiment un pur bonheur. Alors Florane, je te dédie cette chanson pour la vie, ma belle.
C'est pour toi, Florane.
C'est pour toi. Alors, on continue avec les articles.
Ouh. Allez, on reprend.
Alors, exit les Starbucks, Tim Hortons et McDonald's. On va aller au Hop Café, tout le monde, dans Mercier-Est. Donc, bonne raison d'aller dans l'Est de la ville. Souvent, l'Est de la ville est un peu laissé de côté. Eh bien, ce n'est plus le cas maintenant parce qu'en fait, depuis février dernier, il y a un nouveau café qui a ouvert dans le secteur Hochelaga des Ormeaux. En fait, je parle du Hop Café, 8850 Hochelaga, près de des Ormeaux et de la rue French. Donc, Hochelaga et il y a la rue French. Et puis, un café géré par ses deux propriétaires, Yacouba et Prisca Sédion, donc deux sympathiques résidents du quartier qui sont originaires de la Côte d'Ivoire. C'est le père et la fille et ils se complètent super bien dans ce travail. Vraiment, pour être allé au Hop Café, je peux vous dire que Yacouba est un visionnaire. Ce sont des gens très accueillants. On se sent chez soi dans ce café. Et ça vaut le déplacement, Jennifer. Bagel Saint-Viateur, saumon fumé, crème glacée du Bill Boquet, café Barry du thé tisane Camellia Sinensis, donc vraiment des produits de qualité et abordables. C'est ce qui est super. Et puis vraiment, on sent chez soi parce que la clientèle, c'est des gens de quartier. Ça fait un peu penser à Humans of New York, mais Humans of Mercier-Est. Et puis on parle avec les gens, on discute. Il y a des chaises hautes pour les enfants, des tables à dessin.
C'est un endroit convivial.
Vraiment très convivial, oui, voilà.
Je pense que je vais y aller peut-être à midi.
Alors, tu viendras à midi, 8850 Hochelaga. Et pourquoi Hop Café? Eh bien, si on pense à une tasse de café, eh bien, on voit que la tasse fait un U et l'anse fait un P. Donc, Hop Café.
OK. Tout est réfléchi. Hein,
ouais. Santé, Jennifer. Santé, Rémi, aussi, à la mise en onde. Bon café, tout le monde. Et maintenant, place au théâtre, la nouvelle aventure d'Amos d'Aragon. C'est par Louise Bourbonnais, vendredi dernier. Donc, les fans des aventures d'Amos d'Aragon qui attendaient avec impatience la nouvelle création de l'auteur Brian Perrault sont désormais servis parce qu'après le spectacle Amos d'Aragon qui avait tenu l'affiche durant 3 ans, c'est le nouveau spectacle à grand déploiement Dragao qui a pris place à la Cité de l'énergie. C'est inspiré des tomes 2 et 3 de la célèbre série littéraire. Donc, la nouvelle création nocturne promet d'être des plus colorées, avec 30 artistes sur scène, dont 15 acrobates, qui incarnent une centaine de personnages. La prestation multidisciplinaire offre un amalgame de théâtre, de musique, de chorégraphie et de nombreuses prouesses dignes des grands cirques sur fond de projections multimédia. Donc, c'est une grande aventure pour ce spectacle de grande envergure, indique Brian Perrault. L'auteur et l'équipe de production sont des plus optimistes parce qu'ils croient que Dragao pourra tenir l'affiche encore une fois pendant plus de 3 ans. Et si le célèbre auteur affiche cette assurance, c'est que déjà les places se font rares pour assister à cette nouvelle production. Nous vendons entre 400 et 700 billets par jour, dit-il. Bien que les spectateurs aient répondu à l'appel, Brian et son équipe retiennent néanmoins leur souffle à chaque représentation. Nous ne sommes pas à l'abri des problèmes techniques. En raison des pièces pyrotechniques, même la direction des vents influence nos décisions à chaque soir. Pour ceux qui avaient été impressionnés par la précédente production de la Cité de l'énergie présentée depuis 2012, le spectacle Dragao offre une belle continuité. Donc, le clou du spectacle demeure la scène finale avec le fameux dragon attaqué par les pièces pyrotechniques qui séduit tant les spectateurs que le metteur en scène lui-même. Donc, la nouvelle aventure d'Amos d'Aragon au théâtre à la Cité de l'énergie.
Et on reste en théâtre avec la pièce de Simon Baudreau, En cas de pluie, aucun remboursement. Présentement à l'affiche au Petit Théâtre du Nord, c'est une belle réussite. Outre le texte amusant, c'est principalement le jeu des acteurs qui se livrent une lutte sans merci pour accéder au pouvoir qui séduit le public. Louise Bourbonnais nous en parle dans le Journal de Montréal du vendredi 24 juillet. Campé dans un parc d'attractions, le royaume du super fun où l'on retrouve le propriétaire des lieux, Louis le Juste, interprété par Ronald Robinson, qu'on nomme aussi le King, est sur le point de tirer sa révérence après avoir subi une crise cardiaque. L'homme, qui ne mâche pas ses mots, espère que sa fille pourra prendre la relève, mais celle-ci cherche plutôt la facilité. Le pouvoir semble la séduire, mais les lourdes responsabilités de gestion l'horripilent. Ce sont principalement les trois chefs de section qui espèrent prendre la relève et accéder au trône. D'ailleurs, le trône, dans le bureau du Super King, Louis le Juste, ne passe pas inaperçu. Ainsi, la responsable des manèges et des jeux d'adresse, la responsable de la section restauration et le responsable de la section aquatique sont prêts à tout pour écraser leurs rivaux dans cette lutte de pouvoir. Des alliances iront même jusqu'à se créer, mais elles seront vaines car ce sont les mensonges et l'hypocrisie qui prendront plutôt le dessus. Si certains traits sont grossis, ils sont également amusants. Quant à la scénographie, qui compte très peu d'éléments de décor, elle réussit néanmoins à nous plonger dans les coulisses d'un parc d'attractions où une multitude de problèmes de gestion surviendront. Même la piscine à vagues ou la descente en montagne russe sembleront suffisamment réelles pour y croire. Revirement intéressant, faisant face aux différents chefs de service qui se font coriaces les uns envers les autres, affichant sans scrupule leur soif de pouvoir, on verra que celui que l'on sous-estimait est sans doute le plus futé du lot. Fraîchement débarquée au royaume du super fun, la jeune recrue que chacun nommera le bossu en raison de son handicap, magnifiquement interprétée par Lucien Bergeron, sait travailler dans l'ombre afin de tirer habilement les ficelles. Celui que personne ne craint est celui qui est à craindre. On pourrait presque croire à un clin d'œil au terrible Richard III de Shakespeare. Cachant bien son jeu et surtout son ambition, il réussira à gagner l'estime du grand patron pour parvenir à ses fins. Une pièce habile et amusante permettant aussi une certaine réflexion, c'est à voir cet été, c'est à l'affiche jusqu'au 21 août au Petit Théâtre du Nord dans les Basses Laurentides, ça s'appelle « En cas de pluie, aucun remboursement ».
Oh, changer. Lorsque ce jour viendra et que je partirai loin, moi, je te réveillerai. Rendors-toi, c'est pas encore la fin du monde, pas encore la dernière seconde. Ce jour de pluie, bientôt ça sera.
Au coco avec les jours de pluie. Et on espère qu'il ne pleuvra pas du 6 au 9 août pour le Festi Blues International de Montréal qui est présenté par l'Auto-Québec. Voici 6 choses que vous ne savez probablement pas à propos de ce festival, mais qui vous vont donner envie assurément d'y assister. Le journal du métro nous en parle. 6 grandes têtes d'affiche se produiront sur scène. Michel Rivard, Alex Nevsky, Bobby Basini, Lisa Leblanc, Bernard Adamu et Sylvie Desgrosiers. Or, pas question de faire leur spectacle habituel. Ils joueront quelques-uns de leurs plus grands succès, bien entendu, mais tel que le veut la tradition du festival, c'est sur des airs de blues que les artistes livreront la majeure partie de leurs performances, souligne Martin Landry, vice-président de Festi Blues International de Montréal. De nombreux autres artistes de l'international et de la relève prendront aussi part à ce festival. Vous pouvez découvrir la programmation complète sur festiblues.com. Le Festi Blues International de Montréal a été créé par 5 copains soucieux d'en faire plus pour les jeunes downstick. Agents communautaires et citoyens impliqués, ils ont imaginé ce festival comme prétexte pour offrir une expérience de travail enrichissante et signifiante aux jeunes du quartier. Depuis, les éditions s'enchaînent et les jeunes poursuivent leur parcours scolaire et professionnel avec entrain. Plusieurs anciens bénévoles du festival travaillent maintenant à titre professionnel dans l'industrie de ce spectacle. D'autres ont choisi de poursuivre des études dans le domaine après leur expérience au festival, raconte fièrement Martin Landry. La 18e édition du festival se déroulera du 6 au 9 août. Soit 4 jours de découvertes musicales et de prestations d'artistes de renom. Au total, 40 spectacles seront offerts aux 65 000 spectateurs présents. Camion de cuisine de rue, bistrot assis et service de bar, un trio parfait. Profitez du festival pour vous régaler aux différents kiosques alimentaires en famille ou entre amis dans une ambiance amusante, sécuritaire et festive. Les villes de Mantes-la-Jolie en France et de Montréal se mettent à deux pour vous faire découvrir l'univers blues. Grâce au jumelage international, les spectateurs auront la chance de découvrir des artistes du festival français Blues sur scène qui se produiront lors du Festival international de Montréal. Cette année, ne manquez pas les spectacles de Foolish King et Daniel Blanc, des artistes blues de la relève très prometteurs. Une présence qui compte, la vôtre. En assistant au festival, vous prenez part à l'action. Une partie des fonds amassés par la vente de billets sont remis à la fondation du festival qui redistribue l'argent à divers organismes du quartier. Procurez-vous vos billets ou encore le passeport 4 soirées en ligne au festiblues.com ou bien directement au parc Amstik. Les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement. Zéro fausse modestie, nous ne serons jamais le plus gros festival, mais nous sommes assurément le plus beau, conclut Martin Landry, vice-président du Festival international de Montréal. Et il n'y a qu'une façon de le vérifier, c'est en se rendant en grand nombre à cette 18e édition.
<t'->
Et on s'en va tout de suite avec quelques brèves pour clôturer l'émission. Pour clôturer l'émission, en musique, quatre nouveaux albums sont disponibles dès maintenant. Water of Soul de Joss Stone, après avoir clôturé récemment le festival de jazz, label est de retour avec un septième album empreint de reggae et de hip-hop. Le producteur Damien Marley, fils de Bob Marley, ne serait pas étranger à ses nouvelles influences. Un album qui a mis 4 ans à voir le jour et qui nourrit l'esprit, au dire de la chanteuse. Un autre album également, Mal, de Nathalie Imbruglia. Il s'agit d'un retour pour la chanteuse australienne après 6 ans d'absence. Elle y interprète des chansons rendues célèbres par des hommes. On y retrouve Instant de Crush, popularisé par les Daft Punk, Friday I'm in Love de Cure et The Waiting de Tom Petty ou The Wine de Cat Stevens. Un autre album également, Momentary Master d'Albert Edmond, le guitariste des Strokes, se commet encore une fois en solo. Il aurait fait du ménage dans sa vie et aborde les multiples facettes du genre humain et la modeste place que nous occupons dans l'univers. Le premier extrait, Born Sleepy, est actuellement disponible. Et enfin, le dernier album qu'on nous conseille, c'est Réédite Piaf d'Angélique Duruisseau. En effet, depuis le début des années 2000, la grande Piaf lui colle à la peau. Après avoir remporté de nombreux concours et s'être produite dans différents festivals, la jeune auteure-compositrice rend ici hommage à celle qu'elle admire, avec des relectures originales des œuvres de Piaf qui vont de la bossa nova au zouk et à la samba. Puis quelques conseils de films qui sont projetés en salle dès aujourd'hui. Vous avez Mission Impossible, La Nation Rogue. Tom Cruise reprend le personnage d'Ethan Hunt dans ce cinquième film de la série Mission Impossible qui a été réalisé par Christopher McGeer. La prochaine fois, je viserai le cœur. Habitué au rôle de beau garçon, l'acteur français Guillaume Canet s'est transformé en psychopathe dans ce thriller, inspiré de l'histoire vraie d'un gendarme qui a été accusé de plusieurs meurtres dans la région de l'Oise à la fin des années 1970. Autre film, Tristesse Club, le comédien Laurent Lafitte et l'actrice Ludivine Seigné se donnent la réplique dans cette comédie dramatique française qui raconte les retrouvailles entre deux frères et leur sœur à la suite du décès apparent de leur père. Enfin, Bonjour les vacances, c'est une découverte dans les comédies à succès des années 80 mettant en vedette Chevy Chase. La célèbre famille Griswold est de retour dans ce film qui relate les vacances des enfants Griswold qui ont maintenant leur propre famille. Et un petit dernier, The End of the Tour, ce drame biographique mettant en vedette Jesse Eisenberg et Jason Segel qui relate la rencontre entre le journaliste David Lipsky et le romancier David Foster Wallace après la publication du roman Infinity Jest. Oshéga, le festival musical le plus attendu de l'été, souligne cette année son 10e anniversaire. Toute la fin de semaine sera consacrée à la musique et parmi les artistes d'ici, nous retrouverons Karim Ouellet, Ariane Moffat, Claude Béguin, John Jacon et encore plein d'autres. C'est à ne pas manquer. Le village des arts présenté par H&M, ça démute aujourd'hui à 13h et c'est jusqu'à dimanche au parc Jean Drapeau. Pour terminer, par une journée de canicule où se retrouver des oasis de paix en ville, on aura nommé la plage de l'Horloge avec son sable fin, ses chaises longues, ses parasols et ses brumisateurs. On s'y sent complètement dépaysé, même en plein cœur de centre-ville. C'est aujourd'hui à 17h15 au jardin Gamelin. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. On remercie Rémi à la régie, Geneviève qui est partie un petit peu plus tôt. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un excellent week-end.